Bien, pour celles et ceux qui sont au fond, il reste 5 places devant. Non, vous restez. Bon, d'accord. C'était pour vous, hein. Si vous voulez voir Toumaï d'un peu plus près. Voilà. Professeur, monsieur le professeur.
C'est bon ici, hein, c'est climatisé.
Bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Avant que les incidents diplomatiques entre le professeur Brunet du Collège de France et la représentante du maire de Poitiers ne commencent. Bienvenue à l'espace Mendès France pour cette soirée un peu exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord, c'est le lancement de la 20e édition de la Fête de la Science que l'espace Mendès France coordonne en région Poitou-Charentes depuis 1992. Et puis nous avons le plaisir de recevoir notre ami Michel Brunet, professeur au Collège de France, et qui ce soir, à travers un voyage dans les contrées un petit peu hostiles, va nous raconter l'histoire de nos origines, mais sous un angle particulier, puisque Michel, vous le savez, met en scène également la démarche scientifique, le doute et les incertitudes du chercheur. Alors justement, c'est cette fête de la science, en deux mots, c'est un temps fort qui permet aux chercheurs de rencontrer celles et ceux qui, en tant que citoyens, parents d'élèves, mais aussi élèves dans les établissements, veulent en savoir un peu plus sur les sciences. Et quand on parle des sciences, ce ne sont ni les sciences dures, ni les autres, ni les sciences humaines, ni les autres, ce sont toutes les sciences, les techniques, les technologies. Vous avez peut-être eu la chance de voir la démonstration de ce robot peintre qui montre que la programmation peut aussi avoir de la sensibilité. Voilà, donc la fête de la science sera dans 90 communes en région Poitou-Charentes cette année, sur plus de 300 projets, absolument partout. Nous tenons également, à travers la Fête de la Science, à valoriser en milieu rural la présence des acteurs du développement territorial qui permettent à nos publics d'être plus proches des résultats et des débats scientifiques. Voilà, donc avant de laisser la parole à Mario Cotron, le président de l'Espace Mendès France, et bien entendu à Michel Brunet, je voudrais donner le micro à 4 représentants importants de la science et du développement territorial ici. Donc Christine Sarrazin, représentant Monsieur Claes, le maire de Poitiers. Jean-Marc Chabosseau, qui est président de l'INRA Poitou-Charentes. Olivier Bonneau, qui est vice-président de l'université, président du conseil scientifique. Et non des moindres, Alain Texier, qui représente Monsieur le préfet de région et qui nous permet cette coordination. Donc Christine, je vais te laisser la parole.
Très peu de temps avant que j'aie des ennuis avec notre ami Michel, qui est en pleine effervescence. Donc juste vous dire que la ville est très fière de participer à l'inauguration de cette science en fête, cette 20e édition. La subvention qu'elle donne en est témoin. Très fière que l'Espace Mendès France soit porteur d'un tel projet, puisqu'effectivement, il œuvre dans plus de 80 endroits sur 350 thèmes. Et puis, vous souhaitez donc une bonne semaine et pleine riche de découvertes et d'enseignements, à commencer par la conférence de Monsieur Brunet ce soir. Ça va?
Le monsieur.
Donc nous, en ce qui nous concerne à l'INRA, Didier a dit qu'il y avait un certain nombre de manifestations qui se feraient dans le milieu rural. Nous, on a la particularité, c'est de faire la recherche dans le milieu rural, puisqu'on est des campagnards qui viennent présenter de temps à autre leurs travaux à la ville. Et c'est le cas pour l'occasion de cette fête de la science. Et on est effectivement très heureux d'être associés aux différents partenaires que sont l'université et les autres instituts, bien sûr, Mendès France et la ville de Poitiers. En ce qui nous concerne, on sera présent sur le chapiteau devant le palais de justice pour faire des présentations concernant une petite partie de notre activité qui concerne les abeilles et les difficultés que qu'ont ces animaux à l'heure actuelle avec le dépérissement des abeilles. Donc on vous invite à venir pendant toute la semaine qui va jusqu'à dimanche prochain pour regarder ces travaux. On n'a pas amené ce soir d'abeilles. Je pense qu'il était plus facile de regarder les robots et peut-être un peu moins dangereux. Donc, par contre, on aura des abeilles sur le site sécurisé, place des palais de justice. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer. Voilà.
Donc, juste quelques mots. Donc, depuis 20 ans, l'université et l'ensemble de ses chercheurs, enseignants-chercheurs, accompagnent la fête de la science. Alors, avec des moments forts, plus particulièrement, tous les deux ans. Avec tous les deux ans, on avait organisé ce qu'on appelait Place aux sciences. Donc, c'est sur la place d'armes, un chapiteau. Alors, cette année, on innove pour différentes raisons. Mais donc, on va travailler autour d'un parcours des sciences qui aura donc un point avec un chapiteau sur la place donc, du Palais de Justice, et puis un deuxième lieu qui sera ici, au niveau de l'espace Mendès France. Vous avez pu voir le robot peintre, donc avec d'autres activités autour de robots peintres, plus des choses dans la ville pour montrer que l'université est dans la ville, des visites sur un certain nombre de bâtiments d'université, et puis une animation continuelle pendant les 5 jours de cette manifestation, avec une originalité cette année autour d'un travail qui a été mené par la Maison des sciences de l'homme et de la société de l'Université de Poitiers du CNRS, une activité autour de création et recherche, donc une réflexion sur l'activité de création, mais aussi l'activité des chercheurs, et montrer qu'il y a une symbiose autour de ça. Le robot peintre en est un exemple, c'est une activité de chercheur, mais qui permet d'avoir une activité créatrice, bon, certes peut-être limitée au sens artistique, mais avec quand même cette symbiose entre ces deux activités. Donc tout au long de la semaine, il va y avoir des choses un petit peu partout dans la ville et puis même hors de la ville. Donc je vous invite à participer. Alors la fête de la science, c'est aussi un partenariat toujours avec nos partenaires, donc avec l'ANSMA, le CNRS, l'INRA, l'INSERM, le CHU. Donc vous allez avoir tous nos travaux, enfin un bon échantillon de ces travaux qui seront présentés dans la ville et dans la semaine. Voilà. Alors je suis très content, en plus, que cette fête de la science commence par une conférence de Michel. Toumaï va bientôt rentrer au pays. Un autre plus vieil étudiant de l'Université de Poitiers va nous quitter. On lui dira au revoir avec un petit peu de nostalgie, mais je sais qu'on va essayer de trouver peut-être
ce qui
autre
est
chose.
Promis, est promis.
Voilà. Allez. Merci Michel, en tout cas, pour la conférence que tu vas nous faire. C'est toujours passionnant.
Bonsoir à tous. Je vais être très rapide. J'ai écrit simplement des dates pour me souvenir des dates en sachant que je vais vous parler de la fête de la science, mais en tant que 20e anniversaire. Alors, en fait, j'ai découvert en regardant les dossiers que la fête de la science, ce n'est pas tout le temps appelé fête de la science. Alors, c'est ce que je vais essayer de rappeler. Et ça va vous rappeler des choses aussi parce que je vais parler du Bercurien, hein, donc ministre de la Recherche en 1991, qui a créé justement la science en fête. C'est le démarrage de tout cela. Donc vous le connaissez bien, puisqu'il est venu aussi ici pour Mendès France. Son idée au départ, c'était de rapprocher le citoyen de la science et de ses acteurs. Donc c'est une idée qui continue, hein, qui continue de vivre. Mais à l'époque, c'était un projet purement parisien. Ensuite, l'année d'après, face au succès, ils ont décidé de décliner cela, mais ça se déclinait au mois de juin, sur 3 jours au mois de juin. En 1995, la manifestation passe en octobre. Donc je donne des dates, simplement des évolutions, hein, atypiques, je dirais. En 98, Science en fête devient Semaine de la science et vise un public scolaire. En 2000, c'est là où j'ai vu le changement, donc naissance de la fête de la science avec les mathématiques à l'honneur. Hein, on a démarré avec les mathématiques, la fête de la science. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? En 2001, pour l'anniversaire des 10 ans, ouverture aux échanges européens. En 2008, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, la 17e édition a été placée sous le signe de l'Europe. Et enfin, on arrive aujourd'hui, en 2011, la 20e édition sous le signe de la chimie et de l'outre-mer. Alors en fait, ce que pensait Bercurien, je crois qu'on peut le signaler, la science est l'affaire de tous, eh bien ça perdure. Et c'est maintenant, je dirais, un rendez-vous incontournable pour tous les curieux, de tous les âges d'ailleurs, hein, ça se voit dans l'Assemblée. L'an dernier, plus d'un million de visiteurs sur la fête de la science nationale. Alors simplement, maintenant, je vais terminer mon propos en parlant de Mendès France. Sachant qu'il faut savoir aussi que tout cela se fait grâce à la coordination de Mendès France. Je crois qu'il faut être clair. Il y a toute une petite organisation qui fonctionne très bien, qui depuis quelques années est très bien huilée. Et ça se fait aussi avec quelques subventions. Mais ce sont des subventions tout à fait raisonnables. Et vous arrivez à mettre en place plus de 300 projets, je crois, cette année, d'ailleurs. Des choses énormes. Alors, tout le monde travaille. Hein. Ça passe, bon, bien sûr, par les universités, hein, comme on le disait il y a un instant, mais les lycées, les écoles, les départements, là, enfin, tout le monde hein, autour de vous travaille et met en place des projets. D'ailleurs, j'avais remarqué les projets dans les petites écoles. Je trouve ça merveilleux, hein, les tout-petits qui se chargent de diffuser la science et qui parlent de Toumaï, ce qui est merveilleux. Alors, en fait, simplement, je souligne, je vais vous donner la somme pour vous dire quand même qu'il y a un travail de fond qui est mené ici, qui est extraordinaire, avec 30 000 euros d'aide financière au niveau du ministère de la Recherche. Vous arrivez à monter des projets extraordinaires. Évidemment, il n'y a pas que ces 30 000 euros-là. Il y a des aides complémentaires venant de différentes communautés et de Mendès France. Mais il faut quand même souligner que vous arrivez à faire des choses magnifiques avec peu de financement. Et je trouve ça très, très bien. Bon courage à tous et merci.
Donc, je vais laisser la place aux sciences. Un petit mot à Mario Cotron. Et puis, simplement pour illustrer ce que vient de dire Alain Texier à l'instant, il y a quelques jours, nous étions dans une mairie très proche de Poitiers et tout intimidée, la responsable du temps périscolaire nous disait que c'était la première fois de sa vie qu'elle se retrouvait dans une salle, celle-là, en réunion de coordination régionale, avec dans la salle la représentante de l'INRA, donc elle se reconnaîtra, trois doyens, un vice-président d'université, des élus, etc., etc. Donc c'est le pari de la mixité autour des sciences. Donc en ce sens-là, moi je remercie la communauté scientifique poitevine qui a permis à l'espace Mendès France de faire de cette expérience parisienne la première année une vraie expérience territoriale. Et avec 37 000 euros, on monte 320 projets. Donc vous voyez que c'est un temps fort extraordinaire pour nous tous. Donc je salue le travail de l'équipe de l'espace Mendès France au niveau professionnel, mais aussi au niveau bénévolat. Je vous rappelle que 280 chercheurs vont sortir des labos dans les 5 jours qui viennent partout en région. Donc merci à toutes et à tous qui leur soient rendus hommage ce soir. Mario, je vous laisse la parole.
Merci Didier. C'est vraiment et réellement un grand plaisir que de dire quelques mots sur la personne qui va converser avec nous tout de suite. Quelle belle idée d'ouvrir cette semaine, la fête de la science, par une conférence de Michel Brunet. Alors pourquoi une belle idée ? Les travaux de Michel donc, sur la découverte de Toumaï, qui constitue aujourd'hui notre plus vieil ancêtre connu, sont essentiels évidemment pour avoir une vision du chemin parcouru, le chemin qui est derrière nous, même si, et vous le dira, cette vision n'est pas, enfin, ce chemin n'est pas totalement connu, déterminé, s'il y a des incertitudes. Mais cette recherche-là, Michel en tire aussi, pas forcément des conséquences, mais une réflexion très utile à l'idée qu'on peut se faire de notre devenir. Hein. Donc, premier point, c'est-à-dire l'excellence de la recherche, mais aussi ne pas se limiter à son propre domaine, mais pouvoir voir les interactions avec des questions dans d'autres domaines scientifiques, dans d'autres champs, des questions qui interrogent chacun d'entre nous. Et puis, quelle belle idée aussi, parce que, je le pense très sincèrement, il n'y a pas, au sein de l'Université de Poitiers aujourd'hui, meilleur ambassadeur de la diffusion de la culture scientifique. Il n'y en a pas. Pourquoi ? Bon, parce que c'est pas facile de... Pardon ?
Tu vas me faire des copains.
Non. Mais c'est à moi que je risque de ne pas me faire de copains. Mais c'est moins grave. C'est moins grave. On est à l'université, on enseigne, on fait de la recherche. On a été un peu formaté pour ça. On essaie de faire autre chose. Et c'est pas aussi de faire état de nos découvertes, de l'intérêt de nos découvertes au public. Et c'est pas quelque chose de très facile à faire. D'abord, peu veulent s'y engager. Et Michel a toujours eu ce souci-là, toujours. La preuve en est que, et pas simplement pendant cette semaine dédiée à la fête de la science, Michel va dans les écoles, collèges, lycées, mais aussi les écoles primaires.
Hein, même maternelles.
et maternelle pour parler de ces découvertes. On a souvent cru, et moi le premier, il y a quelques années, que on ne pouvait parler que, qu'entre personnes du même milieu. C'était totalement aberrant. Et je pense vraiment qu'il est le meilleur ambassadeur de la diffusion de la culture scientifique. Donc, très belle idée. Et le parcours des sciences est décliné cette année par « Laissez-vous surprendre ». Je trouve ça admirable. C'est exactement ça, la fête de la science. Et Michel a totalement intégré ce leitmotiv-là, « Laissez-vous surprendre ». Et je vous jure que quand les chercheurs, quand on combine la compétence scientifique avérée et l'ouverture et la discussion, la présentation avec des mots que tout le monde arrive à comprendre auprès du public, c'est gagné. Et le public est partant pour se laisser surprendre. Et donc, on est peu nombreux à essayer de surprendre et Michel y réussit fort bien. Je suis persuadé qu'il va encore nous surprendre ce soir. Donc, je vous ai pas dit, mais Didier le disait tout à l'heure, Michel, donc professeur des universités, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire paléontologie humaine. Il a été longtemps directeur du laboratoire. Aujourd'hui, Institut international de paléoprimatologie, évolution et paléo-environnement. Il est actuellement professeur associé à l'Université de Poitiers. Et il est, pour les minutes qui vont suivre, notre interlocuteur qu'on va écouter avec grande attention. Voilà. Michel.
Il marche, celui-là ?
Oui.
Merci. Merci à toutes et à tous. Madame le maire, puisque... Mais aussi, chers collègues, je peux dire chère Christine aussi. Messieurs les présidents, vous avez un point commun, vous n'assurez pas du tout les mêmes présidences, mais votre point commun, c'est que vous appartenez tous à la même région. Et vous partagez sûrement quelque chose ensemble, puisque vous êtes là ce soir. Messieurs les doyens, j'en ai vu plusieurs, chers collègues, et globalement pour tout le monde, chers amis. Je voudrais vous dire, pour moi, que je suis très fier d'être là ce soir, très heureux. Je le dois sûrement à deux choses. La première, c'est que forcément, quand on est dans un coin depuis un moment, puis j'ai été aussi quelque part, moi, élu pendant 24 ans, quand même, à ce qu'ils appellent maintenant l'agglomération de Poitiers, qui s'appelait à ce moment-là le district de Poitiers. Donc, j'ai quelques amis sur place. Mais j'ai quelques amis dans la maison, ici, entre le président et le directeur général. Je vois Didier qui se cache là-bas. Dis-moi, Didier. On a parlé de tout ça il y a combien de temps ? Tu as la mémoire des années, toi. Moi, je me rappelle que des millions. Ouais. Enfin, on a fait ensemble, et grâce à Didier, grâce au président actuel, mais Didier est là depuis longtemps, grâce à l'équipe de Mendes France, on a fait un long parcours Et je crois que vous pouvez, le président, le directeur général et toute l'équipe, vous pouvez les applaudir parce que si je suis là ce soir, c'est grâce à eux et uniquement grâce à eux. Alors bien sûr, tout ça, comme ça a été souligné, c'est possible parce qu'il y a des financements. S'il n'y avait pas de financement, c'est pas possible. C'est pas possible de faire de la médiation scientifique sans avoir de financement. Si vous voulez vous en assurer, c'est simple. Vous allez à Paris, à la Cité des Sciences, et vous leur demandez combien ça coûte. Et quand vous reviendrez, histoire de vous remonter le moral, on vous dira combien ça coûte ici. Vous voyez, il y a un représentant de l'État qui dit que c'est vrai. Alors, quelque part, grâce à l'équipe de cette maison, il a été essayé et réussi de mettre la science et le citoyen en contact. Et je crois que ça, c'est important, c'est indispensable. C'est science et citoyen. Et je pense que si tout à l'heure, certains d'entre vous ont pensé que j'étais ronchon, grognon, c'est qu'effectivement, quoi, vous voyez, vous êtes là bah, une centaine, puisque la salle, c'est 100. Il doit y avoir un certain nombre de gens dans le planétarium, et c'est clair, quoi. Mais bon, tout ça sont des problèmes d'argent. Si on est là, c'est parce que la municipalité de Poitiers a soutenu Mendès France très fortement. C'est parce que la région aussi a soutenu Mendès France, le conseil général beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins. C'est dommage. On peut le regretter. Mais on ne m'a pas invité ici pour faire un bilan financier, mais néanmoins, je crois qu'il est important que vous, citoyens, vous sachiez comment les choses se font. Et elles se font comme ça. Et Mendès France, au départ, l'essentiel de Mendès France, c'est une association de type 1901. Alors, vous imaginez bien. Tout à l'heure, on vous a dit que j'étais au Collège de France. Ouais, c'est vrai. J'y tiens, d'ailleurs. J'ai accepté. Ils sont venus me chercher, j'ai accepté. Mais on vous a dit aussi, et j'y tiens aussi beaucoup, merci, Monsieur le Président. J'ai été nommé récemment professeur associé à l'Université de Poitiers. J'y tiens beaucoup parce que tout le monde sait que j'ai du caractère, mais tout le monde sait aussi qu'à travers mes tribulations, j'ai toujours gardé. C'est facile de dire ça le soir d'un grand match de football. J'ai toujours gardé le maillot de l'Université de Poitiers. Et je crois qu'avec ce maillot, je l'ai emmené aux quatre coins du monde. S'il y a un continent où je ne suis pas allé parler, c'est l'Australie. Autrement, je suis allé partout, sauf en Australie. Je n'avais jamais été en Antarctique, j'y étais en février dernier. Mais là, je n'ai pas fait de conférence, hein, on ne m'a pas demandé. M'inviter en précisant, on vous l'a bien dit tout de suite, que cette année, je devais vous surprendre. Alors j'ai bien essayé de commencer à vous surprendre en vous montrant que j'avais du caractère, mais ça n'a pas bien marché. Alors la surprise, c'est celle-là. C'est pratique hein, quand vous allez faire vos courses. Je vous ai amené une boîte. Celui-là, vous en avez encore besoin ? On peut le débrancher. Oh non, on ne veut pas le jeter. Attendez, on n'est pas riche ici, vous savez. Merci. On vous a dit que Toumaï allait rejoindre sa patrie. Sa patrie, c'est le Tchad. Très bientôt, je suis en train d'organiser au Tchad un grand colloque international où il y aura tous les représentants mondiaux de la paléoanthropologie. J'ai même prévu, parce que c'était beaucoup plus simple, de les emmener tous dans le désert sur le site de Toumaï. Joli voyage, non? Mais c'est pratique à monter. Hein. Mais enfin, ça occupe. Il y a d'ailleurs quelques personnes dans cette salle qui m'accompagneront. Et alors, vous savez quoi? Je suis paxé avec Toumaï depuis 2001. Il a du caractère, moi aussi. On discute souvent ensemble, on n'est pas toujours d'accord. Et ce soir, il m'a dit, quand même, t'exagères. Tu irais à la fête de la science sans moi. Alors qu'au Tchad, ça n'existe pas, la fête de la science. Pas encore, parce qu'on va l'inventer pour le Tchad, bien sûr. Que pensez-vous que j'ai fait? Alors, ma surprise n'est pas tellement une surprise. C'est lui qui a raison, et je l'ai amené avec moi. Donc, on va, si vous le voulez bien... Vous allez converser avec lui et moi. Et lui, c'est l'original. Alors, vous imaginez, hein, ça fait un peu plus de 10 ans qu'il vit dans cette boîte. Cette boîte elle-même est dans un coffre-fort. Et voilà. Et ce soir, à Main d'Air France, votre surprise, c'est de voir l'original de Toumaï. Je vous promets, ce n'est pas les responsables de Main d'Air qui me l'ont demandé. Personne ne l'a demandé. Et... vous pouvez demander au président, quand je suis arrivé là, il ne le savait même pas. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas quelque chose qui... Non, non, c'est un problème entre lui et moi. Et lui, croyez-moi, il a du caractère. Hein. Vous le préférez comment? Comme ça? J'enlève la boîte. Sur la boîte. Ah. Vous voulez me faire prendre des risques, vous? Vous savez que par définition,
il ne peut rien lui arriver. J'ai amené avec moi mes tireurs d'élite ce soir. Toute personne qui s'approcherait, je décline toute responsabilité, vous êtes prévenus. Alors, le statut de Touma est un statut un peu particulier dans la mesure où il vient du Tchad. Donc, il fait partie du patrimoine culturel tchadien. Mais il fait partie de notre histoire. Avouez que c'est assez drôle. On va très bientôt passer à 7 milliards d'individus. Eh bien, lui, il a 7 millions d'années. Et pour le moment, c'est le plus ancien des 7 milliards. Ah oui, à lui tout seul, il fait beaucoup plus que nous tous réunis. Bon, ça n'a pas l'air de vous surprendre que je l'ai amené. Je lui avais dit, hein. Pour une fois, ça me rassure. Merci, Christine. J'avais peur que tu t'en ailles sans qu'on le voie. J'ai mis en bleu l'autre surprise. Toutes celles et tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec ce qui est en bleu, Toumaï et moi-même sommes à votre disposition pour en parler scientifiquement. J'ai dit scientifiquement, hein. Pour faire court, notre histoire est africaine, mais on ne vient pas de le découvrir, hein. On ne vient pas de le découvrir. Darwin a écrit ça il y a bien longtemps, hein. Bien longtemps. Cette histoire, elle commence il y a 7-8 millions d'années. C'est un ordre de grandeur. Toumaï a 7 millions, c'est-à-dire qu'il n'est pas très loin du début de cette histoire. L'Afrique, ce que l'on sait, eh bien, c'est que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est clair. Quand vous lisez dans la presse que, je ne sais pas, la Chine, l'Indonésie, nos amis américains sont prudents, ils ne parlent jamais, ils ne se placent jamais comme berceau de l'humanité. Non, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Alors, si vous voulez que je m'exprime, que je ne me contredise pas, l'expression scientifique de ce que je viens de dire, c'est que la probabilité que l'Afrique, la probabilité scientifique que l'Afrique soit le berceau de l'humanité est plus forte que toute autre probabilité. D'accord ? Comme ça, ça peut être écrit, y compris dans Nature ou Science. Donc, 7-8 millions. Et on s'y plaît tellement. On s'y plaît tellement. Mettez tout ça en perspective, c'est important. Parce que souvent, ce qui nous manque, c'est la perspective temps. 7 millions d'années, vous ne savez pas ce que c'est. Moi non plus. Lui, il sait. Lui, il sait. Vous avez vu dans quel état ça a rangé son crâne ? Vous avez vu un peu ? Hein ? Les plus anciens représentants de la famille humaine connus en dehors de l'Afrique. Je suis allé les visiter cet été. Ils sont au Caucase, dans un pays qui s'appelle la Géorgie. C'est au sud de Tbilissi. Ils sont à peu près à une centaine de kilomètres au sud de Tbilissi, dans un site qui s'appelle Manissi. Ils sont datés à 1 million et 800 000 ans. Ce sont des représentants du genre Homo. Ce sont des Homo erectus, sens large. Si on en connaît à 1 million 8, ça veut dire que quand on les connaît, ils sont déjà très largement répandus. Hein, il y en a ailleurs. Donc ils étaient au moins là, sûrement au moins à 2 millions. Vous prenez les 8 millions d'un côté, les 2 millions de l'autre, on est resté 6 millions d'années en Afrique. On s'y plaisait quand même, non ? Vous voulez que je continue pour justifier « nous sommes tous des Africains » ? Il y a des endroits, quand je suis allé dire ça, j'ai parlé de l'Amérique du Nord, quand je suis allé dire ça à Birmingham, Alabama. Vous savez, ce sont des États qui sont proches du Texas. Vous connaissez des Texans, hein ? Eh bien, c'est pire à Birmingham. Je me souviens quand je leur ai dit ça, waouh, j'avais eu du succès. Surtout que c'était le moment où, en plus, on avait refusé de les suivre alors qu'ils commettaient une erreur en Irak. Mais bon. Et puis après 2 millions, quels sont les points importants qu'il faudrait citer ? Je crois qu'il y a une autre étape qui est importante. Ce n'est pas exactement ce que vous voyez dans la presse. Hein. L'autre point important, c'est vers 10 000 ans. Ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, c'est dans ce que l'on sait. Et toujours dans ce que l'on sait, il y a vers 10 000 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous imaginez, pendant 8 millions d'années de notre histoire, moins 10 000 ans, 8 millions, moins 10 000. On a été des nomades. Nous avons été nomades. Il y en a qui sont restés, moi j'y suis resté. Je suis toujours nomade. Ça crée des difficultés pour certaines choses. Il y a des avantages pour d'autres, mais c'est comme ça. Eh bien, on est devenu sédentaire. À 10 000 ans, à peu près, hein. On ne va pas se battre pour 1 000 ans. Et quand on est devenu sédentaire, c'est là qu'ont commencé nos ennuis. Ah ouais. On a commencé à domestiquer, on a commencé à planter, à cultiver. Il n'y a pas eu qu'un centre, hein, contrairement à ce qu'on pensait. Dans la zone de la Mésopotamie, il s'est sûrement passé des choses à cette époque-là. Mais j'étais, pas l'été dernier, l'été d'avant, ces dernières années, je fréquente beaucoup l'Amérique du Sud. J'étais sur un archipel insulaire au large du Chili qui s'appelle Chiloé. Ce sont des îles merveilleuses. Je vous conseille d'y aller, faire un tour, c'est très beau. Et il s'est passé des choses là aussi en Amérique du Sud, vers 10 000 ans. Il y a eu aussi une certaine sédentarisation.
à partir du moment où vous êtes nomade, vous vivez en petits groupes. Quand vous rencontrez des nomades dans le désert, c'est pas des bandes de 1000 personnes, quoi. Ce sont des clans, des groupes. Vous avez des tailles de groupes qui sont comparables à la taille d'un groupe de chimpanzés actuel. Si vous voulez devenir très nombreux, et ça a marché, hein, de ce côté-là, ça a marché, bientôt 7 milliards. Eh bien, c'est grâce à ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. C'est parce qu'on s'est sédentarisé. Alors, tous les ennuis dont on parle à l'heure actuelle, on ne m'a pas invité pour parler de ça. Donc, j'en parlerai pas. Mais ils sont liés, le point de départ, c'est là, hein, il y a 10 000 ans. Et là, on a commencé à, la population a commencé à s'accroître. Et vous vous rendez compte, sur une histoire de 8 millions d'années, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. C'est important, je crois, on ne le fait pas assez, je crois que c'est très important de mettre les choses en perspective. Il y a, avant de commencer, mais je commencerai peut-être jamais dans le fond. J'ai pas de papier, hein, ni dans les mains, ni dans les poches. Je voudrais vous dire une autre chose. On vous a dit que j'allais dans les lycées, dans les collèges, dans les écoles primaires, on vous avait pas dit les maternelles, mais j'y vais aussi. On vous a pas tout dit, hein. Je vais dans les prisons aussi. Et j'ai essayé une chose, raconter la même histoire, exactement la même histoire, avec les mêmes images, de l'école maternelle jusqu'à l'université. En passant par les prisons, les hôpitaux, je vais voir des enfants. J'adore les enfants. Je vais voir les enfants, par exemple, dans des hôpitaux spécialisés, l'hôpital Debré à Paris, avec des enfants malades. Et à tous, partout, j'ai raconté la même histoire, la même, avec les mêmes images, mais en utilisant des mots différents. Il n'y a pas de problème, ça marche. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est ce qui se passe ici dans cette maison. C'est ce que cette maison essaie de faire. Et je dis, je persiste et je signe, MADES France, c'est la vitrine de l'université de Poitiers, à ce titre. MADES France fait la médiation de ce qui se fait à l'université de Poitiers, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, puisque c'est une université pluridisciplinaire. Et je crois que il y a là quelque chose d'extrêmement important. Cette perspective dont je parlais, un certain nombre d'entre vous ont des enfants, lesquels enfants ont des bouquins. Quand j'étais à l'école primaire, ça s'appelait les sciences naturelles, avant ça s'est appelé les leçons de choses. Maintenant, c'est beaucoup plus poétique, ça s'appelle SVT. C'est joli, non? Ça vous donne envie? SVT. Pour celles ou ceux qui ne sauraient pas, c'est science de la vie et de la terre. Mais bon, pourquoi pas SVT? On vit d'acronymes. Et je me souviens de l'époque merveilleuse où j'étais élu et enseignant à l'université de Poitiers. En tant qu'élu, on parlait des MST et en tant qu'universitaire, on parlait aussi des MST. À l'université, c'était des maîtrises de sciences et techniques. En tant qu'élu, c'était les maladies sexuellement transmissibles. Allez vous y retrouver. C'est c'est comme ça et c'est toujours comme ça. Alors ça s'est traduit dans notre vie de tous les jours. Je vois au collège, par exemple, ça s'est traduit par la maladie des codes. Alors il y a des codes, vous voulez aller quelque part, il y a un code. Partout il y a un code. Et les codes changent. Et bientôt il va nous falloir des valises pour transporter tous nos codes. Dans les livres scolaires, j'y reviens, on vous a appris. Et vous en souvenez, j'en suis sûr, que Lucie était la grand-mère de l'humanité. Osez me dire le contraire. Lucie, la grand-mère de l'humanité. Lucie est âgée de 3 millions et 200 000 ans. Lucie a été trouvée en 1972. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a encore certains bouquins qui sont vendus et on enseigne encore à certains endroits que Lucie est encore la grand-mère de l'humanité. Il y a des fois où, en tant que chercheur français, je me demande à quoi ça sert. Alors, il y a des collègues qui me disent « tu vieillis mal ». Il faudrait d'ailleurs qu'on m'explique pourquoi, quand vous êtes septuagénaire, vous n'avez plus le droit de faire de l'enseignement depuis bien longtemps à l'université ou ailleurs, mais vous avez le droit d'être président de la République. C'est comme ça, ça ne se discute pas. Essayez de trouver quelqu'un pour discuter de ça, tiens, avec. Ce qui m'a rassuré récemment, et j'ai vu personne, qui râlait et qui s'est plaint de cela. On a un prix Nobel de médecine. Il est septuagénaire. Mon Dieu, quel drame. Personne s'en est plaint. J'ai remarqué quand même au passage qu'on l'a interviewé à Shanghai. Revenons à nos hominidés. Lucie, la grand-mère de l'humanité, a 3 millions et 200 000 ans. Toumaï a 7 millions d'années. Eh bien, Lucie est plus proche de vous qu'elle n'est proche de Toumaï. Elle est globalement éloignée de vous par 3 millions d'années et éloignée de Toumaï par 4 millions d'années. Simplement, je soumets cela à votre réflexion. Telle est la science. Telle est aussi le passage de la science vers l'école. Alors, à chaque fois, je n'ai pas de chance parce que je demande toujours s'il y a dans la salle un inspecteur général. Quand je parle de ces choses-là, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu cette chance. C'est dommage. Alors, si je reviens à ce pourquoi on m'a invité, l'histoire de notre famille, nous appartenons à un ordre de mammifères banal. Comme c'est nous qui l'avons appelé, on l'a appelé les premiers, les primates. Quitte à faire, on a toujours été modestes pour ça. Hein. On a construit un podium et on s'est mis en permanence sur la plus haute marche. Il est vrai que pour faire certaines choses, et notamment des choses pas très bien, on est très largement sur la plus haute marche. Alors, dans un premier temps, tous les bleus, ça va bien ce soir. Ils sont en dehors du jeu. J'espère qu'il n'en était pas de même ou qu'il n'en est pas de même à Paris. Tous les rouges, on est dans les rouges. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, on est dans les singes de l'ancien monde. Nous sommes des singes de l'ancien monde. C'est comme ça.
Et nous sommes le groupe frère des singes du Nouveau Monde et nous partageons entre les singes de l'Ancien Monde et les singes du Nouveau Monde, nous partageons un ancêtre commun. D'accord ? Tout à l'heure, je vous dirai, je vous montrerai des images, au moins une d'Antarctique. Quand je vais en Antarctique, je vais pour essayer de résoudre une des dernières grandes énigmes, ce que l'on ne sait pas, de l'histoire des primates, quelle est l'origine des singes actuels, des singes anthropoïdes actuels d'Amérique du Sud. On ne sait pas. On ne sait pas. Je vais régler ça tout de suite. Dans mon équipe, partie de l'équipe à laquelle j'appartiens, a trouvé en Libye les plus anciens singes connus en Afrique, à 38-39 millions d'années. Ces singes, on les a trouvés aussi dans l'ex-Birmanie, au Myanmar, en Thaïlande, on les connaît en Chine du Sud. Et en Asie, on les a trouvés dans des niveaux de lignite. Les niveaux de lignite sont des charbons non finis. Ces niveaux-là indiquent la présence de forêts tropicales humides. Ces niveaux de lignite avec anthropoïdes, on les a retrouvés en Afrique à 38-39 millions d'années. Forcément, hein, j'avais des informations, mais on a retrouvé les mêmes niveaux à 38-39 millions d'années sous la banquise en Antarctique. On a retrouvé ces niveaux de lignite à 38-39 millions d'années. Je vous rassure, on n'a pas encore les singes. Mais c'est facile, hein. C'est très facile. On cherche des dents et les dents qu'on cherche sont entre 1 et 2 mm. Donc chercher des dents entre 1 et 2 mm sur le continent antarctique, c'est facile. Un conseil, si vous n'y croyez pas, n'y allez pas. Mais on va y arriver. Évacuer les platyriniens. Mais voilà quelque chose que l'on ne sait pas. Les autres. Voilà notre groupe, hein, voyez ? Bande de joyeux lurons, non ? Hein ? Quand je vous regarde, c'est pas très différent. Ils sont sympas, non ? Nos collègues phylogénistes moléculaires ont montré qu'au niveau de l'ADN, c'est-à-dire au niveau du matériel génétique, ceux qui sont le plus proches de nous dans la nature sont les chimpanzés. Ils sont tellement proches, on a à peine plus d'1% de différence que nécessairement on partage un ancêtre commun. Alors, regardez-moi, regardez un chimpanzé, ça veut dire que 1%, c'est beaucoup. J'en vois qui doutent. On en parlera à la sortie. Cette dichotomie, les phylogénistes moléculaires la voient vers... Enfin, globalement, ils sont entre moins 5 et moins 10 millions d'années, mais en moyenne, 6 millions. Toumaï est plus vieux que ça. À mon avis, ils ont un peu de progrès à faire encore. Ils arriveront vers 7-8 bientôt. La paléontologie n'a pas été en reste. Je vous ai laissé schéma pour vous montrer que à la même période, durant ces 7 millions d'années, vous avez plusieurs espèces d'hominidés qui ont vécu à la même époque. Nous ne sommes plus que tout seuls. Pardon, les images sont en anglais, mais la science communique en anglais. Les pierres angulaires de notre histoire, j'en ai pris 4.
les quatre piliers du temple. L'enfant de Tang, Afrique du Sud, c'est le premier qui a été mis au jour. Il a 2,5 millions d'années, vient de là, 1925. Le deuxième, c'est Lucie, 1974, 3 millions et 200 000 ans. Lucie, elle vient de là. Troisième, Ardipithecus ramidus, 4,4 millions. Il est là, c'est un squelette subcomplet, trouvé en 1994, fini de publier en 2009. Ardipithecus, 4 millions, et il vient de Aramis, ici, 22. J'ai eu la faiblesse de mettre Toumaï, publié en 2002, trouvé en 2001. Il vient d'ici. C'est-à-dire de l'endroit où on ne l'attendait pas. C'était une surprise. Alors, à ce propos, en science, vous avez deux types de découvertes. Les découvertes attendues, ça va bien. Ça se passe bien avec les collègues, vous n'avez pas de problème. Tout le monde est content. Les découvertes inattendues, oulala, c'est un autre problème. Et alors là encore, on a un esprit très français, étonnant d'ailleurs par certains côtés. Alors, je ne vais pas prendre des exemples dans mon milieu, mais regardez le Tour de France. C'est un truc très populaire en France. Finalement, le plus populaire, c'est celui qui n'a jamais gagné le Tour de France, c'est Poulidor. Imaginez la même chose sur le continent nord-américain. Et pourtant, si je vous demande... Je ne vais pas le faire, mais si vous m'embêtez tout à l'heure, je le ferai. Si je vous demande de me citer 3 ou 4 universités prestigieuses, vous allez me citer, non pas Shanghai, sûrement pas. Mais vous allez me citer des universités d'Amérique du Nord. Eh ouais. Troublant, non ? Alors, les découvertes inattendues, ben, faut les supporter après. Hein. Faut les supporter avec les collègues. C'est comme ça. Mais ça n'enlève en rien le plaisir de la découverte. Ça, personne ne peut vous le prendre. Personne. Absolument personne. Si parfois j'arrivais à vous séduire sur l'histoire des hominidés, avant d'aller en chercher, réfléchissez bien. Toutes celles et tous ceux qui, parmi vous, ont cherché des champignons, vous êtes partis un samedi matin ou un dimanche matin ou un autre jour chercher des champignons. Et au plus tard, vous êtes rentrés chez vous à 11h30 avec le secret espoir de commencer déjà à en manger à midi. Chercher des hominidés fossiles, c'est comme chercher des champignons. C'est pareil. Quand vous cherchez des champignons, si vous cherchez des girolles, vous n'allez pas au même endroit que si vous cherchez des coulemelles des prés ou des rosées des prés. Eh bien, chercher des hominidés anciens, vous n'allez pas n'importe où. Quand vous avez trouvé un coin où poussent des champignons, vous ne le dites à personne. Surtout pas à vos collègues. Quand vous avez trouvé un coin où poussent des hominidés anciens, vous le dites à personne. Mais la grosse différence, c'est que entre le moment où j'ai commencé à chercher et le moment où j'ai trouvé, vous allez compter. Je suis parti en 76, j'ai trouvé le premier en 1995. Je suis parti sur ce que l'on savait à l'époque ou ce que l'on croyait savoir. Le berceau de l'humanité était considéré comme étant au Pakistan. Je suis parti en Afghanistan. Très vite, j'ai su qu'on ne trouverait pas l'hominoïde de du Pakistan, on ne le trouverait pas en Afghanistan. Très vite, il y a eu la guerre, on m'a expulsé. Je suis parti rejoindre nos amis américains au Pakistan. Et très vite, on a trouvé une face de leur hominoïde. Alors là, j'ai vu ce que c'était vis-à-vis des politiques, travailler sur les hominidés. Le Pakistan était fier, il était le berceau de l'humanité. Mais la face qu'on venait de trouver montrait que l'hominoïde, que l'on pensait être l'ancêtre, ce que l'on croyait savoir, eh bien, c'était pas ça. Cet hominoïde, il était en réalité apparenté aux orang-outans actuels. Ça ne faisait pas le même effet hein, sur le plan politique. Hein.
Alors maintenant, je vais évacuer une autre chose. Ce que l'on croyait savoir, c'est le paléo-scénario East Side Story. Hein, vous avez tous entendu parler de East Side Story. East Side Story, c'est quoi ? Les hominidés anciens sont connus en Afrique du Sud et en Afrique orientale. Les plus anciens sont connus en Afrique orientale, à l'est du Rift. Mon collègue et ami Yves Coppens a mis ça en scénario. Il a dit, eh bien, l'Afrique orientale, c'est le berceau de l'humanité, est du Rift, et à l'ouest du Rift, eh bien, ce sont les singes qui sont nés à l'ouest. La preuve, c'est que les singes actuels, on les trouve, les grands singes, on les trouve encore là. Forcément, quand j'ai trouvé, la première fois que j'ai trouvé un Australopithèque à l'ouest, tout le monde a dit, c'est pas possible. C'était Abel. Non, c'est pas possible. Et non seulement c'était possible, mais maintenant le plus ancien est connu là. Alors voyez, ce que l'on croyait savoir, eh bien en réalité c'était faux. Mais telle est la science. Et c'est ce qui rend la science absolument merveilleuse. Ce que l'on sait à un moment, ça peut changer à un autre. C'est même valable dans certains cas pour les mathématiques. Cette image, c'est encore pour vous montrer que la famille humaine, c'est pas quelque chose qui est rectilinéaire. Hein, on ne s'est pas séparé des chimpanzés, puis voilà, il y a Toumaï qui a donné naissance à un autre, à un autre, à un autre, puis un jour, on est apparu. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça chez les néo-créationnistes. Mais c'est une autre philosophie. Ce sont des croyances, ce n'est pas de la science. On ne m'a pas invité ici ce soir, c'est la fête de la science. Alors forcément, je travaillais au Tchad aussi, puisque c'est là que ça a été trouvé, avec un certain nombre de sponsors. C'est dans le désert. Je vais y repartir très vite, dans très peu de temps. Au Tchad, il n'y a qu'une chose qui est tranquille, c'est la tectonique. Ça, c'est calme. Le reste, beaucoup moins. C'est un magnifique désert de dunes. N'Djamena est là. On travaille là, au sud du Tibesti. C'est à peu près 800 kilomètres. Il faut beaucoup de voitures. Et là, le symposium qu'on va faire, vous voyez, on va prendre l'avion, parce que je ne vais pas les emmener en jeep, mes collègues, parce que je me vois mal leur faire 4 jours aller, 4 jours retour, ça fait 8 jours de jeep. Donc, selon le temps, normalement, j'ai prévu qu'on les pose dans le désert, quelque part par là,
ici, s'il fait beau. S'il ne fait pas beau, on ira plus haut, on ira les poser à Faya. Et puis après, il y a un hélicoptère de combat ou deux, un Mi-17. Ça vole bien, hein, je suis monté dedans, il n'y a pas de problème. Ce sont des Mi-17 russes qui ont été rachetés à des Ukrainiens et qui sont pilotés par des mercenaires mexicains. Il n'y a pas de problème. C'est l'autre côté de la paléontologie. Je suis allé dans les prisons en Afghanistan, je suis allé en Irak, je suis allé... Bon, je ne vais pas vous raconter tout. Hein. Je ne suis pas là pour vous raconter ma vie non plus. Ce qui est en vert, c'est le bassin du lac Tchad. Ce qui est en bleu, c'est le lac Tchad actuel. 5000 km². Il y a une quinzaine d'années, quand je suis arrivé au Tchad, il faisait 25000 km², ce lac. Et il y a 5000 ans, le rivage, c'était ce qui est en noir, là. Vous voyez là, hein, d'accord, c'est ce que l'on appelle le méga lac Tchad. Ça, à ce moment-là, il y a 5000 ans, ça faisait 400 000 km². C'est l'équivalent de la Caspienne actuelle. Avec mon équipe, on a montré que depuis un peu plus de 7 millions d'années, vous avez une succession de périodes arides, humides, arides, humides, arides, humides. Et en période humide, vous avez un méga-tchad qui se crée. C'est pourquoi il y a des hominidés. C'est-à-dire que le désert du Sahara, que vous connaissez, on est en phase aride à l'heure actuelle, ce désert est un désert intermittent, très intermittent. Il y a autre chose, puisqu'il y a des physiciens dans la salle, et pour ne pas être pris uniquement comme un gratteur d'os, c'est d'employer des termes que je ne connais pas. Dans cette partie du désert, vous avez une période qui correspond à la mousson et une période qui est en dehors de la mousson. Donc pendant une période de l'année, le vent il vient d'ici, du nord-est. Ce vent il s'engouffre entre deux massifs, l'un que vous connaissez bien, le Tibesti, ce que vous en entendez parler de temps en temps, c'est là que se trouvent les Toubou. D'accord? Et une de mes hantises, c'est que... Enfin non, je ne suis pas là pour parler de ça. C'est que peut-être il y ait des gens du Nord qui soient venus là se réfugier. Et le massif de l'Enedi ici, qui est cette région de l'Enedi, la région d'Unyanga-Kébir, c'est absolument merveilleux. Je ne sais pas si ça sera diffusé, mais j'ai tourné il y a quelques mois avec Nicolas Hulot un Ushuaïa sur le Tchad. C'est pour ça que je connais tout sur le Mi-17, l'hélicoptère de combat. Et il y a des paysages absolument merveilleux. Et vous avez, dans ce secteur, vous avez des restes du méga-tchad. Et vous imaginez, dans ces restes du dernier méga-tchad d'il y a 5000 ans, il y a encore dans un des lacs 7 crocodiles qui vivent. 7 crocodiles du Nil. Alors, qui ont un peu rapetissé, mais qui sont toujours là. 7. Eh ouais. Le vent qui vient du nord, est. Deux massifs montagneux. Les physiciens ont tout de suite compris qu'il y avait un effet, comment vous dites, Venturi. N'est-ce pas, hein, je ne me suis pas trompé. Non. J'ai appelé belle. Et par effet Venturi, eh bien, vous avez un surcreusement ici, dans cette région, c'est-à-dire dans le sous-bassin nord du lac Tchad. Et ce sous-bassin nord, c'est ce que les Tchadiens appellent les Pays-Bas. C'est ce que nous, nous appelons la dépression de Baudelaire. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est là qu'on a les sites, les points, là. C'est là qu'on trouve les hominidés. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, on a sûrement un des tout premiers chapitres de notre histoire à nous, les hommes, qui est écrit, là. Et le vent tourne les pages de ce livre. Quand il les tourne, il les use, il les arrache. Notre seul mérite, maintenant que je sais où est l'endroit, c'est d'être là au bon moment. Ce n'est pas nous qui creusons, c'est le vent. Le vent tourne les pages. Alors, dans un paysage qui est mouvant, parce que les dunes sont poussées par le vent, et donc d'une année sur l'autre, maintenant c'est plus pratique. Hein. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Maintenant, avec le GPS, les chercheurs de champignons savent bien ça. Ils n'arrivent plus à se perdre maintenant, c'est même plus drôle. Avant, ils se perdaient, maintenant, avec le GPS, tout le monde se retrouve. Eh bien, pour nous, c'est pareil. C'est plus facile. L'élu n'est plus là, donc ça va. Mais il y en a encore d'autres. C'est plus facile de se balader dans le désert avec un GPS qu'à l'heure actuelle à Poitiers. Président, vous m'avez dit que j'étais là pour une surprise, il ne s'y attendait pas, celle-là. Quand je vous disais que c'était plat, allez voir nos géologues. L'expression creuser son trou, ils connaissent. Pour faire des coupes, eh ben, il faut les faire. Tout ce qu'on a comme faune et tout, j'imagine que le paysage de nos origines, c'était l'équivalent du delta actuel de l'Okavango au Botswana. L'Okavango est un grand fleuve de 1500 km qui vient se jeter au milieu du désert de Kalahari. Il ne jette pas dans un lac, il ne jette pas dans la mer, il jette au milieu d'un désert. Au milieu de ce désert, il y a un petit delta qui fait 15-18 000 km², et c'est là que j'ai vu la plus belle grande faune de mammifères d'Afrique. Ce sont des paysages mosaïques, et je pense que Toumaï vivait dans un paysage comme ça. Je pense que nous sommes nés, nous les humains, dans un paysage de ce type. Ça, c'est ce que je crois savoir. Abel, c'était 95, il y avait 20 ans qu'on était dehors. 20 ans, pour un humain, c'est déjà une belle tranche de vie. Dans ces 20 ans, il y avait eu des moments forts, il y avait eu des drames. Il y avait eu un drame horrible. Un de mes collègues, qui était un ami très proche de l'université de Poitiers, qui était venu avec moi pour m'aider, il était géologue, pétrographe, est mort en mission avec nous. Il s'appelait Abel. Et quand on a trouvé ce premier australopithèque, on l'a dédié à sa mémoire. Vous remarquerez au passage que j'ai marqué les références bibliographiques parce qu'en science, si vous publiez à l'almanach de Brioude en Haute-Loire, ça n'a pas la même valeur que si vous publiez à Nature, à Science, c'est pas la même chose. Tous nos résultats ont été publiés dans les revues scientifiques à haut facteur d'impact. Ça ne veut pas dire pour cela que c'est la vérité vraie. Ça veut simplement dire que les manuscrits qu'on a soumis ont été reviewés par nos pairs et par celles et ceux qui sont considérés dans la discipline comme étant les leaders du moment. C'est-à-dire que toutes les précautions sont prises. Si vous publiez à l'Almanach de Brioude, personne ne relit. Hein, c'est publié comme ça, quoi. Inch'Allah. C'est important. Au Collège de France, on se réunit. C'est une vieille maison, plus récente que l'université de Poitiers. 1530, donc un siècle de moins, mais qui a plus gardé les traditions. On a gardé les traditions de 1530 de François Ier. Et je trouve que c'est bien, quelque part, de garder les traditions. On se réunit 3 fois par an. 3 dimanches, à date fixe, ce sont les mêmes dimanches dans l'année depuis François Ier. La réunion commence à 11h le matin, parce qu'à cette époque-là, ils allaient à la messe avant, ils allaient à Notre-Dame. Hein. Et après la messe à Notre-Dame, ils commençaient à 11h. Donc on commence à 11h. Il y en a peu, je pense, qui vont à la messe maintenant, mais bon. La première partie est informelle le matin, puis il y a les agapes sur le parvis, et puis l'après-midi, on fait part à l'administrateur de la politique qu'on veut mener, parce qu'il n'y a pas un doyen, il n'y a pas un président, il n'y a pas... Non, c'est un administrateur qui exécute la politique décidée par les 52 professeurs. Oui, ça a une petite odeur en T68. 68 n'est pas passé par le Collège de France, c'est clair. Mais je vous parle là uniquement du côté tradition. À ce point de vue, je crois que c'est bien de garder certaines de ces traditions. Il faut, de temps en temps, ça fait partie de notre acquis culturel. Et je crois que c'est bien d'essayer de le conserver. Au collège, on fait donc ces réunions autres que les 3 dimanches. On va réfléchir 2 jours. 2 jours pleins où on délocalise et on réfléchit sur le devenir du monde et le devenir du collège. Et lors de cette dernière réunion, c'était juste au moment, alors je vais parler devant des physiciens qui vont me corriger, il y avait eu 2 choses, 2 événements. Premier événement, un événement paléontologique. Vous avez dû voir, on a parlé à la télé et dans les journaux d'un crâne fossile trouvé en Ouganda à 20 millions d'années. Vous avez dû entendre ça ou voir ça. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et je disais ça au collège parce que à ce moment-là, on parle de ce qu'on a trouvé directement à la presse. Or, les règles d'éthique veulent que quand on est scientifique, on présente d'abord ses résultats à ses pairs, et quand on a présenté à ses pairs et qu'ils ont, ses résultats ont été acceptés, ensuite et seulement ensuite, on les présente aux médias et à ses concitoyens. Quelle ne fut ma surprise d'entendre mes collègues physiciens, alors que je leur racontais ça, me dire, on venait de parler dans la presse, à la radio, de neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière. J'ai découvert, je ne savais pas. Mais il y a des matheux là aussi, donc ça va. Ils pourront corriger si je dis des bêtises. Les physiciens et les matheux m'ont dit, bah oui, nous, quand on a trouvé quelque chose, on a un site, chacun un site, les matheux ont leur, les physiciens leur, et ils peuvent mettre en place sur le site ce qu'ils ont trouvé. Ça existe aussi pour les gens qui font de la phylogénie moléculaire et du séquençage. Pour ne pas se faire pirater les choses, ils mettent sur un site. Et donc, c'est accessible par tout le monde. Et ces physiciens m'ont dit oui, mais le vrai problème, c'est que, on a parlé de ça dans la presse, mais ce n'était pas sur le site. Ça a été mis après, je crois, 24 heures ou 48 heures après. Donc là aussi, les physiciens avaient franchi la ligne blanche quant à l'éthique. Je trouve que c'est dommage et j'ai demandé, je ne sais pas si ça se fera, mais j'ai demandé une réflexion sur ce point à l'Académie des sciences en France. Je trouve dommage pour les jeunes générations qu'on en soit rendu là. Et il faut absolument arrêter ce type de dérive qui amènera des choses épouvantables. Ça, c'est ce que je crois. Vous voyez ce que je vous disais, les points bleus en Afrique du Sud, les points bleus à l'est du Rift, les points bleus sont les australopithèques, les humains. Eh bien, on vient de faire, avec mon équipe, on vient de faire exactement ce que les Américains ont fait sur la Lune. On a planté un drapeau. On ne sait rien. On a commencé quelque chose. Vous vous rendez compte le territoire qu'on a ouvert? Vous vous rendez compte ce qui reste à prospecter? C'est bien, je vois mon doyen qui prend des notes pour me donner des crédits supplémentaires. Je pense que avec l'équipe de Poitiers, c'est sûrement la chose la plus importante que nous ayons faite, montrer que la répartition des hominidés anciens est très vaste, et ceci de manière très précoce. Toumaï ? Mais vous l'avez là, hein ? Alors, je sais bien ce que vous êtes en train de penser. Vous êtes en train de penser que je suis un espèce de charlatan et que le fossile original que vous voyez, il a une bien plus sale tête que celui sur la photo. Alors, je ne veux pas être méchant, mais dites-moi, réfléchissez bien, souvenez-vous, la dernière fois que vous avez été dans un photomaton ou chez un photographe, vous y alliez pour une photo, pas pour votre passeport, parce que maintenant c'est de face, alors ça fait photo wanted. Vous choisissez votre meilleur profil. C'est ce qu'a fait Toumaï. Toumaï a son profil gauche vu de trois quarts. Eh bien, voilà ce que ça donne. Eh oui, quand vous le voyez de face, c'est complètement différent, hein? Alors, on n'a pas le droit en science de publier la photo que je vous montre en ce moment. Mais cette photo a servi pour faire la couverture de Nature. Je ne leur ai pas donné la photo, d'ailleurs. Quand on a le crâne un peu déformé, on l'a coupé, on a fait des coupes scanner, on en a fait 800. On a séquencé, paramétrer chaque petit bout d'os. On a reconstruit. Ce travail a été fait en Suisse, à l'université de Zurich-Hirschel. et on a redonné au crâne la forme qu'il avait il y a 7 millions d'années. À Poitiers, on a maintenant, grâce à l'université au CNRS, on est équipé en matériel pour faire cela nous-mêmes sur place. Les scanners ont été faits cette fois au synchrotron de Grenoble et toute l'imagerie a été faite à Poitiers. C'est une avant-première, hein, ça c'est encore top secret. Ce n'est pas encore publié. Il y a eu une thèse qui a été soutenue là-dessus. Elle est sous embargo pour 2 ans. On a reconstruit le cerveau de Toumaï. Le manuscrit est en train d'être terminé et sera, quoi qu'il arrive, envoyé à une revue à haut facteur d'impact avant que je parte dans le désert. J'ai dit ce soir à celui qui l'avait fait, c'est-à-dire Thibault Bienvenu, c'est lui qui a fait sa thèse, qui fait partie de l'équipe de Poitiers, laquelle équipe est dirigée par Patrick Vigneault, que je ne ferai que de l'érotisme. Ce cerveau, vous le voyez là, remis dans le crâne, reconstruit. Le crâne a été reconstruit de son côté, le cerveau du sien, et les deux vont bien ensemble. Quand vous avez un crâne complet, on a envie de lui donner de la vie. Vous avez vu le robot en bas qui dessinait Toumaï. Mais voilà Toumaï. Il a la bouche ouverte, parce que je voulais faire cette photo-là. Je vous ai dit au départ qu'on discutait souvent tous les deux. Au passage, et c'est un clin d'œil, ici, pour arriver à cela, on est passé par, avec une artiste parisienne, Elisabeth Dénès, on est passé par un moule d'argile, hein. On a mis des muscles en argile, de la peau en argile, et cette argile, c'est le kaolin avec lequel on fait la porcelaine à Limoges. Bien sûr, ces modèles en argile n'existent plus. Les cheveux sont des vrais cheveux, ils ont été piqués un par un. Les yeux sont des vraies prothèses oculaires et les dents sont des vraies prothèses dentaires, comme vous en met votre dentiste, des prothèses en porcelaine. C'est un travail qui a duré 1 an, ça aussi. 7 millions d'années, c'est le plus ancien. Il y a 2 autres points en Afrique, l'un en Éthiopie, l'autre au Kenya, ils ont 1 million d'années de moins. Mais on ne connaît que 3 points en Afrique. 3. Il a la chance d'appartenir au plus ancien et vous aurez la chance d'avoir vu celui qui représente pour le moment le plus ancien. Voyez, il a déjà fait la couverture de Nature dans nos sciences. C'est-à-dire les sciences naturelles. C'est notre rêve dans l'équipe. C'est moi qui suis jeune depuis le plus longtemps. Mais j'ai toujours le même rêve. Ce rêve est resté intact et c'est le rêve de tous les chercheurs. Publié dans ces revues à haut facteur d'impact. Alors, quand vous êtes médecin, vous pensez au Lancet. Nous, on n'a pas accès au Lancet. J'ai dit à mes collègues à Poitiers que j'essaierais de me maintenir quand j'aurai fait encore 2 couvertures de Nature, j'espère.
j'ai laissé la place dans le couloir pour deux encore. J'espère y arriver. Bon, comment ? La science, c'est quelque chose de merveilleux parce que je crois que c'est du rêve. Et ce qui me faisait rêver il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, ça me fait toujours autant rêver. Toujours autant rêver. Pas moins, pas plus. De la même manière, c'est complètement intemporel. Complètement intemporel. Je me souviens à la tête de mes jeunes collègues quand je leur ai dit « Je suis en train de monter une manip en Antarctique. » Ils m'ont regardé, ils m'ont dit « Vous êtes sûr ?» Alors, bien sûr, il y a eu une différence entre eux et moi. Quand vous êtes en Antarctique, je vais encore vous raconter ça, puis après j'arrête. C'est un peu... Il se passe la même chose que quand vous passez l'équateur. Vous savez, quand vous passez l'équateur en bateau, vous plongez dans l'eau à l'équateur. Eh bien, quand vous êtes en bas au cercle antarctique, vous plongez aussi. Ça, je ne l'ai pas fait. Mais j'en ai quand même quatre, deux filles, deux garçons. J'avais respecté la parité. Qui ont plongé dans l'eau qui est à 2 degrés avec 18 secondes de survie. Oui, ils l'ont fait. C'est pas mal, non ? Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Et voyez, hein ? Ah, c'est embêtant, ça. Regardez, il y a des feuilles, là, des feuilles fossiles. C'est les feuilles dans les niveaux qui sont des niveaux de forêt tropicale humide. On est au bon endroit. On va les trouver. C'était notre bateau, un petit bateau 100 mètres de long. Ça, c'était un iceberg, un morceau de banquise qui s'était détaché, qui nous a suivis très longtemps, ou nous, on l'a suivi, j'en sais rien. Mais le bateau était tout petit à côté. Hein. Ça, c'était un de nos deux zodiacs. Et voilà le type de harnachement qu'on avait, quoi. En moyenne, on était en été, c'était température positive. Quand le vent arrive, ça descend à moins 30, moins 35. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que pour sortir les zodiacs, ça je savais, il faut un vent inférieur à 25 nœuds. Si vous voulez faire 8 jours de terrain, il faut partir 4 semaines. En 4 semaines, vous avez une petite chance d'avoir 8 jours avec moins de 25 nœuds. Et pourquoi ? C'est bloqué ? Essayez. Regardez, mais les déserts brûlants sont très beaux aussi. Vous avez entendu parler de cela. Il y a Seba qui est au nord de ça, qui est encore une poche de résistance en ce moment. Ça, ce sont des petites dunes qui, en moyenne, font 200-250 mètres de haut. C'est le bassin de Murzouk. La première fois que j'y suis allé, j'avais repéré 16 affleurements. Vous savez où ? Sur Google Earth, sur mon computer. Je n'ai pas pu y aller parce que les dunes étaient trop hautes. Donc, qu'à cela ne tienne, je peux être très têtu. Il y en a qui emploient un autre mot. Vous riez ? Au départ, quand je ne trouvais pas pendant... plus de 20 ans, mes collègues écrivaient que je faisais preuve d'un entêtement stupide. Quand j'ai eu trouvé le même homme pour décrire la même chose,
avait fait preuve, enfin il était tout à fait exemplaire, quoi. Et on décrivait exactement la même chose. La langue française est très riche. J'ai donc loué des dromadaires à Agadez avec des chameliers. On a fini par trouver ces affleurements. Ça nous a coûté un peu plus de 100 km à pied parce que, je ne sais pas si vous avez déjà fait du dromadaire, mais la place la plus confortable chez le dromadaire, c'est de marcher à côté. Hein, c'est pas d'être dessus. Hein. Alors, nous sommes restés des gens simples. On était très contents parce que le pari que j'avais fait, c'est qu'on allait retrouver dans ces affleurements l'alternance humide, aride, humide, aride, humide, aride. On l'a trouvé. On l'a trouvé. La Libye, pour d'autres raisons aussi, on l'a démontré et publié, fait partie intégrante du berceau de l'humanité aussi. Bon, pour le moment, c'est en sommeil. En Égypte, j'ai ouvert des chantiers entre Alexandrie et le Caire. C'est aussi en sommeil. Ça m'embête un peu plus que rien n'est publié. On a des fossiles et on ne peut pas les publier pour le moment. Bon, attendons. Enfin, j'ai beaucoup travaillé au Cameroun à une époque et j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Ce que je croyais savoir était sûrement faux. Et je pense qu'on a là maintenant des niveaux où on peut trouver des chimpanzés fossiles. On verra. Voilà l'histoire. On est parti d'un ancêtre commun. C'est une histoire qui est buissonnante. Vous remarquerez, puisqu'on parle beaucoup de biodiversité, que les chimpanzés, notre groupe frère, il y a deux espèces et ils sont moins de 100 000. Nous, nous sommes une seule espèce, nous ne sommes plus qu'une seule espèce et nous allons être bientôt 7 milliards. Nous, les Homo sapiens, sur une histoire de à peu près 8 millions d'années, nous sommes apparus au maximum il y a 200 000 ans. À mon sens, sûrement en Afrique. Les Néandertaliens, dont on parle beaucoup maintenant en ce moment, nous ont quittés il y a seulement 27 000 ans. C'est pas beaucoup. Mais il restait encore quelqu'un qu'on ne connaissait pas, l'homme de Flores, qui a 18 000 ans. Je ne crois pas que l'homme de Flores soit un individu pathologique. Je pense que l'homme de Flores, c'est du nanisme insulaire. Et j'ai dit et je redis ici que dès que je vais avoir le temps, c'est-à-dire quand je pourrai aller moins loin, j'irai travailler dans une île de la Méditerranée. Hier, je suis revenu hier d'une île de la Méditerranée pour être là ce soir. Je pense qu'on trouvera un petit bonhomme dans une des îles de la Méditerranée. Je connais au moins un endroit où on a la faune, qui est déjà insulaire, toute petite, où on a les outils, il ne manque plus que l'artisan. C'est facile, non? Et une autre grande question aussi, qui fait partie des choses que l'on ne sait pas. Pourquoi on a quitté l'Afrique? Vous vous rendez compte, on est resté tellement longtemps en Afrique, et un jour on est parti. On est parti. Qui est exactement parti? Est-ce que sont les gens de Dmanisi que l'on connaît actuellement ou d'autres? finalement, on n'est pas sûr. Quand est-on parti ? Sûrement entre 2 et 3 millions d'années. Pourquoi on est parti ? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup, mais beaucoup à faire. Ce que je voudrais conclure simplement en vous disant que la science, c'est la fête de la science aujourd'hui, c'est une activité humaine qui est merveilleuse. Parce que c'est quelque chose qui est sans fin. Et si vous cherchez, vous trouvez obligatoirement, pas forcément ce que vous cherchiez d'ailleurs. Alors il y a des domaines qui sont plus arides que d'autres. Les sciences naturelles, qui sont celles que je connais le moins mal, sont très différentes des mathématiques, par exemple. Sciences naturelles sont des sciences cumulatives, c'est-à-dire que vous avez des connaissances qui s'accumulent au fil des années. Quand vous êtes mathématicien, vous avez une médaille Field, la médaille Field est décernée aux mathématiciens qui ont moins de 40 ans. Le dernier prix Nobel français de médecine a 70 ans, pas 40. Alors vous me direz qu'il y a eu Watson et Crick, d'accord. Mais les matheux vous diraient que les règles ont été faites parce qu'il y avait des exceptions. En plus, dans mon domaine, qui est un domaine simple, hein, quand on me demande ce que je fais, je réponds nomade, chercheur d'os. Je gratte le sable avec mes petites mains pour ramasser des vieux os. Vous avez tous été comme moi, plus longtemps que moi d'ailleurs, à l'école primaire. Je n'ai jamais été à l'école maternelle. Et à l'école primaire, à l'âge on y est tous été au même âge à peu près, vous avez joué, j'en suis sûr, à être le plus grand, le plus petit, le plus quelque chose. C'est un jeu d'enfant. Vous imaginez la chance que j'ai. Jeune comme je suis, j'ai continué à jouer à ça et j'y joue encore. Simplement, je joue à avoir le plus vieux. C'est pas si mal. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Et il faut que je rende hommage, et je terminerai par ça. J'ai eu une équipe merveilleuse. Cette équipe, elle est poitevine. Elle est toujours poitevine, elle est dirigée par le professeur Patrick Vigneault. Et forcément, tout ce que je viens de vous dire, c'est le travail d'une équipe. Tout seul dans le désert, vous êtes rien, vous faites rien. Alors, cette équipe, elle appartient à une université, et je saluerai ici cette université qui, à cette époque, et bien sûr encore maintenant, mais maintenant je m'en occupe plus, donc je ne suis pas censé le savoir, c'est grâce à l'université de Poitiers, ce que l'université de Poitiers, à travers l'université et la faculté des sciences, m'a beaucoup aidé. Si je n'avais pas eu cette aide, rien ne se serait fait. Rien. Donc, globalement, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que cette histoire que je vous raconte là, il y a d'autres collègues qui peuvent vous raconter la même histoire dans d'autres domaines. L'université de Poitiers étant une université pluridisciplinaire. Ce que je veux dire aux jeunes, parce qu'il y en a, c'est qu'une telle histoire est possible à Poitiers. C'est possible à Poitiers. J'en suis la preuve vivante. je suis pas meilleur qu'un autre, et donc. Alors, à quand le prochain prix Nobel à Poitiers ? Ce sera pas un paléontologue, il y en a pas. Une médaille Field en maths, pourquoi pas ? J'en sais rien, mais tout est possible. Absolument tout. Je vous remercie de m'avoir écouté si sagement. Si vous avez des questions pertinentes ou impertinentes, je peux essayer d'y répondre. Merci.
Oui.
Alors, d'abord, j'ai cherché des tas d'endroits avant le Tchad. Hein, j'étais en Asie. Après le Tchad, simplement pour une raison toute simple. Le Tchad, c'est l'ancienne Afrique équatoriale française, AEF, ancienne colonie française. Ça, c'est un point. Deuxième caractère, c'est un pays subsahélien. Donc, un pays qui a des problèmes de ressources en eau potable. Au Tchad, beaucoup d'hydrogéologues du BRGM de l'époque, du Bureau de la Recherche Géologique et Minière, ont travaillé au Tchad. À une époque où les géologues se déplaçaient avec des dromadaires. Et quand on se déplace avec des dromadaires, on a le temps de regarder. On a le temps de faire de la géologie. Alors que quand on se déplace avec des jeeps, on passe à côté de choses merveilleuses sans les voir. Et ces gens-là, qui ont fait de la géologie fine, ont vu des fossiles. Ils les ont ramassés et ils les ont amenés au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Ça se faisait déjà à l'époque de Cuvier. Et les premiers fossiles découverts au Tchad ont été publiés en 1959 à l'Académie des sciences de Paris. Il y avait 3 hydrogéologues du BRGM et Yves Coppens. Donc, et Yves Coppens ensuite a fait son service militaire au Tchad. Il a trouvé des fossiles aussi à ce moment-là. Puis, les hydrogéologues, ce n'était pas leur problème. Ils avaient fait leur travail, bien. Coppens est parti à l'Est, parce que tout le monde était à l'Est. Hein, donc, il est parti avec Arambourg, il a rejoint Arambourg à l'Est. Puis, il n'y avait plus personne à l'Ouest. C'était plus facile à l'Est, c'était plus difficile à l'Ouest. Voilà. Oui. Alors ça, c'est pas une idée de moi. Toumaï vient d'un désert qui s'appelle le désert du Djourab. Dans le désert du Djourab, il y a encore des nomades. C'est une région très, très difficile. Et ces nomades parlent la langue Goran. Le Goran, c'est une langue à racines arabes, mais les Tchadiens comprennent très très mal le Goran. Et en tout cas, quand ils parlent l'arabe tchadien, les Goran ne les comprennent pas. Il se trouve que le président de la République du Tchad, Idriss Déby, est un nomade. Beaucoup de dirigeants dans ce secteur du monde sont d'anciens bédouins nomades. Beaucoup. Et lui parle Goran. Et lui connaît bien mieux que moi le désert du Djourab. Quand vous trouvez un fossile qui peut être considéré comme le plus ancien représentant de l'humanité, vous savez, c'est une charge à porter aussi. Hein. Et donc, je suis allé voir le président de la République du Tchad et je lui ai dit, voilà, il faut lui donner un petit nom. Il m'a dit, vous avez fait ça très bien pour Abel. Alors, je ne voulais pas recommencer parce que, pour plusieurs raisons, Abel, on m'a reproché, ça venait de la part de collègues qui avaient fait une campagne de presse contre moi au Tchad, en disant que Abel était un nom chrétien et qu'il n'était pas normal que j'ai appelé le premier australopithèque Abel. Vous savez, il règne une franche camaraderie hein, au sein de la recherche. Hein. Une franche camaraderie. Bon, Abel, je vous ai dit pourquoi je l'avais appelé Abel et le président de la République du Tchad le savait et c'était parfaitement clair entre lui et moi. Alors je lui ai répondu non, je nommerai pas le premier, vous savez pourquoi, maintenant c'est à vous. Cet homme a réfléchi, je sais pas, 10-15 secondes et m'a dit alors on l'appelle Toumaï. Je lui ai demandé comment ça s'écrivait. Je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Il m'a dit c'est un mot Goran qui veut dire espoir de vie. Et il m'a dit on appelle Toumaï. Tous les enfants qui naissent juste avant la saison sèche, ils portent un de leurs prénoms et Toumaï parce que leur espoir de survie est encore plus faible que pour les autres. Donc c'est une très belle histoire, mais ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire du président de la République du Tchad. Voilà. Et je lui ai promis que je lui ramènerai Toumaï. Assez dommage, si, il doit y avoir encore quelques élus de Poitiers. Alors, je vais en profiter puisque c'est la fête de la science. Avec le directeur de l'espace ici, on se bat depuis... On se bat depuis 20 ans pour construire un musée à Poitiers. On a beaucoup de collections, mais il n'y a pas de musée. On se bat auprès des collectivités territoriales, quelles qu'elles soient. On en est toujours au même point. Bon. La dernière fois que j'étais au Tchad, c'était en septembre dernier. J'ai rencontré le président de la République du Tchad qui m'a dit « Allez voir le musée Toumaï est construit. Ce sera le musée national. » Alors, c'est un musée, c'est un grand bâtiment qui a 4 étages de chacun 1000 mètres carrés. No comment. C'est un problème de volonté. Alors, je crois... Attendez, je suis en train d'accabler personne. Tout le monde est personne. Je suis surtout pas en train d'accabler la municipalité de Poitiers qui, sans elle, on serait pas là. Je suis pas en train d'accabler la région qui aide largement... Conseil général, on pourrait plus discuter, hein, parce que bon, non, mais attendez, faut être sérieux, quoi. Il y a eu des années où on avait une aide du Conseil général, faut le savoir, qui était de l'ordre de 1000 euros par an, quoi. Moi, je veux bien, mais quand même, je crois que si j'avais été le directeur de la maison, j'aurais refusé. Et donc, il y a un problème, c'est très français, ça. Allez, j'arrête. Je vous raconte cette anecdote et après, j'arrête. Aller travailler en Libye, je ne parle pas maintenant, hein, je parle quand Kadhafi y était. Ce n'était pas si simple que ça. Et quand j'avais parlé au ministère des Affaires étrangères français et que je voulais aller en Libye, on m'a regardé et on m'a dit « Vous êtes fou, c'est dangereux. » Bon. Un jour, par hasard, j'ai rencontré le président de la République de l'époque. Par hasard, au Collège de France. Il était venu pour le 20e anniversaire du Conseil national d'éthique. Il avait l'air de savoir parfaitement ce que je faisais, il savait tout. Il m'a dit « Je veux vous aider ». Bon, je vous passe tous les détails. Un jour, je lui ai répondu « Ok, je veux rencontrer le guide de la révolution libyenne ». Il m'a dit « Ok ». Quand il a fait son voyage officiel en Libye, il m'a emmené en Libye. Il m'a présenté à Kadhafi. Et je vais vous raconter un détail qui a, à mes yeux, son importance. J'ai fait le voyage avec tous les grands, nos grands représentants du CAC 40. Je les connaissais parce que je les avais vus dans les journaux et à la télévision. Quand ils m'ont vu arriver à Villacoublay, ils ont dit « C'est qui celui-là ?» J'aurais dit « Je suis prof à l'université de Poitiers. » « Ah bon ?» Comme il faut toujours garder suffisamment d'humour, j'ai dit « Mais c'est pas tout. Je gratte le sable avec mes petites mains pour ramasser des vieux os. » Oh ! Quand vous dites ça à un énarque de Bercy, oh ! Eh bien, bon. Lendemain matin, on est dans le lobby de l'hôtel où il y a à l'heure actuelle le gouvernement transitoire, le CNT. Le président de la République française vient me voir et me dit « Regardez-les ». Alors il me montrait tous les patrons, là. Il y avait toutes les grandes entreprises françaises. Il me dit « Il y a un truc qu'ils ne savent pas ». Je dis « Ah oui, lequel ?» Il me dit « Ils ne savent pas que j'ai décidé que c'est vous qui allez signer le premier accord. Parce qu'on va leur montrer à tous que la culture, c'est important. » Et j'ai effectivement signé le premier accord de coopération en matière paléontologique avec la Libye. C'est une bonne question, c'est 2004 ou 2005. 2004. Alors ça a été signé dans le truc là dont on parle, la Bab el Zazia, dans effectivement vous avez plusieurs enceintes fortifiées. Et la dernière enceinte, vous avez une prairie avec des palmiers et puis des dromadaires et des tentes. Ça a été signé sur une table sur l'herbe verte. Alors, bon, je crois que... Bon, enfin, c'est sans commentaire. Vous en faites ce que vous voulez. D'autres questions ? Oui, madame. Alors, à l'heure actuelle, madame, les recherches ADN, c'est merveilleux. J'ai vu le magazine de la recherche là, de ce mois-ci, qui parle beaucoup des Néandertals. Mais ce qui est merveilleux, c'est que on sait faire, il y a 2 ou 3 équipes au monde, pas beaucoup, hein, qui savent séquencer un génome nucléaire d'un fossile. C'est extraordinaire. Il y a 10 ans ou 15 ans, on n'imaginait pas ça. On est capable, à l'heure actuelle, de remonter dans le temps jusqu'à à peu près 100 000 ans. Au-delà de 100 000 ans, on n'a plus la technique. On ne sait plus faire. Moi qui suis d'un naturel plutôt optimiste, je dis à mes collègues qu'ils arriveront au million. Ils me disent non. Moi, je crois qu'ils y arriveront. Parce que maintenant, on se rend compte que l'ADN, bon, d'accord, il se détruit, mais il va s'accrocher ailleurs. Enfin, je pense qu'on arrivera au million, mais on n'en est pas là. Mais qu'on en soit déjà à 100 000 ans et on a séquencé un génome nucléaire de néandertaliens, c'est prodigieux, quoi. Alors, les gens de Leipzig, l'équipe de Svante Paabo a fait ça. Mais les gens de Harvard et du MIT sont également capables de faire ça. Maintenant, on connaît la technique. Ça veut dire, sur le plan pratique, que quand on connaît la technique, il s'agit d'avoir les appareils. C'est un problème d'argent, quoi, maintenant. Ça coûte cher. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, à moins que le président du conseil scientifique me dise le contraire, je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on aura les financements nécessaires pour faire de telles manips à l'université de Poitiers. Mais c'est possible. C'est possible. Donc ça viendra un jour à Poitiers aussi, ça va, bien sûr. Ça va. Mais bon, mais on peut faire plein d'autres choses. Et on peut faire des collaborations. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'équipe qui travaille au Tchad, et dont je suis toujours responsable, s'appelle la mission paléoanthropologique franco-tchadienne. Et cette équipe, qui est une équipe hors mur, regroupe environ 70 chercheurs de 10 nationalités différentes. Donc c'est complètement pluridisciplinaire et international. C'est aussi le bonheur de la science. Travailler en coopération et en bonne collaboration avec des collègues de multiples pays. Ça aussi, c'est extraordinaire. Quand en plus vous emmenez des gens dans l'Antarctique, dans des déserts glacés ou dans des déserts brûlants, je vous assure, ça forme le caractère des jeunes. De ceux qui sont jeunes depuis plus longtemps aussi. Oui, d'autres questions? Oui, oui, vas-y, oui. Dis-moi.
Quand il est mort?
Alors, il est mort il y a 7 millions d'années, et quand il est mort, il a des dents que tu n'as pas encore, les troisièmes molaires supérieures, qu'on appelle des dents de sagesse. En âge humain, ces dents de sagesse n'étant pratiquement pas usées, ça veut dire que c'était un jeune adulte, disons entre 20 et 25 ans. Mais en âge préhumain, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas. Quelque chose compris, peut-être un peu plus jeune, allez, il avait peut-être de l'ordre de 15 ans. C'est-à-dire là, je donne ça en âge chimpanzé, entre 15 ans et 25 ans, quoi. Ça va, j'ai répondu à ta question? Hein? Tiens, viens là. Viens. Viens. Tu es le plus jeune de la salle. Viens. Tu as posé une question, viens, regarde, viens le voir de plus près. N'aie pas peur, pas de problème, on est entre nous. Touche-le. Là, tu peux. Tiens, et attends, tu vas voir. On va faire un truc. Tu le soulèves juste au-dessus du coton, tu vas voir comme il est lourd. Soulève. C'est lourd, hein? Et alors, regarde. Regarde ces dents. Regarde comme elles sont belles. Et les dents dont tu m'as parlé, tu vois, c'est celle-là, la dent de sagesse. Touche la dent. Regarde comme elle est belle.
J'aimerais pas avoir des dents comme ça, quand même.
C'est un peu noir, hein? Comment tu t'appelles?
Maxence.
Maxence? Eh bien, Maxence, tu te rends compte, tu as eu dans les mains le plus ancien représentant de la famille humaine. Ce soir, je t'autorise à aller au lit sans te laver les mains.
C'était un mâle ou une femelle ? C'était un mâle ou une femelle?
C'est un mâle. C'est un mâle parce que il a un très gros torus
sus orbitaires, là, très gros. Les femelles ont un torus sus orbitaire beaucoup plus petit. On trouve ça chez les chimpanzés ou les gorilles. Pour Ardipithecus ramidus, qui a 4 400 000, le squelette qu'ils ont publié, ils ont une petite femelle qui a un tout petit torus susorbitaire. J'imagine que c'était pareil pour cela. Si on imagine que ça était une femelle, ce torus-là fait 2 cm d'épaisseur. Si c'était une femelle, il ferait 4 cm d'épaisseur. Anatomiquement, ça ne marcherait pas. Alors, le vrai problème maintenant, c'est de savoir à quoi sert un torus comme ça. La réponse est, on ne sait pas. Alors, j'ai essayé de proposer une réponse dans l'article qu'on a publié à Nature. Elle a été refusée par les reviewers. J'ai dit que c'était une sélection sexuelle. Je m'explique. À savoir que les femelles trouvaient plus beau les mâles avec un gros torus susorbitaire que les mâles avec un petit torus susorbitaire. Mais ça n'a pas marché. Mais je crois que c'est ça pourtant. Hein. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est une sélection sexuelle. Mais bon. Oui. Si, bien sûr, oui. Des ossements de tout, oui. Y compris, on a trouvé des dents préhumaines, on a trouvé des mâchoires, on a trouvé des bouts d'os de membres, etc. Tout n'est pas fini d'étudier.
Qu'est-ce qu'il y avait comme vie animale ?
Oui, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait comme vie animale à cette époque.
C'était un coin plutôt sympathique. Rien qu'en félin, en grand félin, Toumaï était affublé. Il avait comme copain qui vivait à côté de lui 3, même 4, je crois maintenant, machaérodontes, c'est-à-dire ces félins qui ont les canines supérieures en dents de sabre. L'un d'entre eux, on a estimé son poids à un poids de l'ordre de 500 kg, c'est-à-dire qu'il est comparable au grand tigre de Sibérie. À côté de ça, vous avez encore 3 ou 4 félins de taille type panthère. C'est-à-dire que fallait que Toumaï grimpe vite aux arbres et puisse se réfugier. Hein. C'était important pour lui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'antilopes de toute taille, très grosses. Hein. Et on a énormément, énormément de poissons. Je ne sais pas si Toumaï mangeait du poisson, mais s'il avait voulu en manger, c'était possible. On a notamment des crânes de poissons-chats qui indiquent des animaux qui pesaient au moins 100 kilos. On a une faune à l'heure actuelle, je recensais il n'y a pas très longtemps, on a à peu près 80 espèces animales recensées autour de lui. C'est pas mal. Il y a un bon garde-manger, si c'était votre question. Alors, lui et ses frères, on en a dans 3 sites. On a trouvé de cet âge-là, dans ce coin-là, on a à peu près 400 sites, 400. On en a trouvé dans 3, on a regardé plus précisément 3 sites seulement. Ces 3 sites, ça fait un triangle. Les pointes du triangle sont à peu près distantes les unes des autres de l'ordre de 10 km. Ça fait un ensemble qui est un territoire comparable au territoire occupé par un groupe de chimpanzés actuels. L'idée que nous aurions eu la bonne fortune, je n'aime pas le mot chance, de tomber là sur la première, la plus ancienne famille préhumaine connue est une idée défendable, c'est une hypothèse raisonnable. On est peut-être en présence de la première famille préhumaine. On a à l'heure actuelle des restes qui appartiennent à un nombre minimum d'individus qui sont compris entre 12 et 14. J'ai répondu à votre question. Oui.
Oui, je vous demandais tout à l'heure comment vous faites pour dater l'ancienneté des fossiles.
C'est tout simple, tout en étant compliqué. On a deux méthodes, une méthode qui est relative, et pour cette méthode relative, on utilise le degré évolutif des lignées de mammifères, et on date à partir des stades évolutifs. Ça, ça vous dit... tel mammifère-là est plus ancien que tel autre, c'est, l'âge est relatif. Des collègues, et c'est une collaboration avec les collègues du CEREJ à l'université d'Aix-Marseille, ces collègues ont mis au point une méthode de datation à partir d'un cosmonucléide. Alors, vous connaissez tous un cosmonucléide, c'est le carbone 14. Mais le carbone 14 a une période très courte et ne vous permet pas de dater des choses plus vieilles que 40 000 ans. Là, on est à 7 millions, donc on ne peut pas utiliser le carbone 14. On a utilisé le beryllium 10, et le beryllium 10 a une période plus longue qui vous permet de dater jusqu'à 15 millions d'années. Les deux datations, datation biochronologique et datation radiochronologique, sont congruentes. On avait donné autour de 7 millions en biochronologie et on arrive, je crois, à 7,12 plus ou moins, je ne sais plus combien, en radiochronologie. On est, je pense, bien calé.
De ces dents, ça indique le régime alimentaire.
Oui.
Alors, vous dites trois molaires, dont celle de sagesse, enfin les premiers molaires. Ça voudrait dire qu'il mangeait, enfin qu'il avait un régime carnassier ou, et il n'a pas l'air de manger de la viande avec un petit faciès comme ça. Ben oui, si c'est, il ressemble plus à un chimpanzé qu'à un hominidé en fait.
Qui, lui ?
Oui. C'est seulement le trou occipital.
Vous l'avez pas fréquenté aussi longtemps que moi.
Non, mais...
Vous êtes fait une mauvaise idée de lui.
Alors que
mais je lui dirai ce soir. Lui qui voulait absolument venir en me faisant remarquer que c'était toujours moi qui voyais les autres. Regardez son beau profil par là.
Vous aviez la mâchoire inférieure aussi.
Oui, oui, j'en ai plusieurs.
Elle est forte.
Oui, elle est forte, oui.
Ah, bah alors oui, alors il mangeait de la viande. Non ? Ben oui, souvent, oui.
Alors, madame, si on regarde à partir de l'anatomie des dents, les dents sont plutôt des dents de type omnivore. Si on regarde maintenant sur les stries ou les petites ponctuations qui ont été laissées sur les dents par les derniers repas, malheureusement, ces pièces viennent du désert et le sable les a érodées. Donc, on ne peut rien en tirer. On a encore une autre technique. On peut faire sur ces dents maintenant des ablations laser sur l'émail. Quand on a fait ces ablations, on peut les purifier, c'est un peu complexe, et quand on les a purifiées, on peut
les transformer en vapeur, oui, au sein d'un spectromètre de masse, et à partir de là, on peut regarder ce qui se passe au niveau du carbone 13 et du carbone 14, notamment au niveau du carbone 13. On fait aussi de l'oxygène. C'est-à-dire qu'on regarde les isotopes stables du carbone et de l'oxygène. Si on prend les isotopes stables du carbone, on peut savoir si les végétaux que Toumaï mangeait ont une photosynthèse en C3 ou en C4. Pour parler plus clairement, on peut savoir s'il mangeait de l'herbe ou s'il mangeait des feuilles d'arbre. Naturellement, en fonction de son régime alimentaire, on peut avoir une idée de l'environnement dans lequel il vivait. Naturellement aussi, quand ils ont la bonne idée de rajouter de la viande à leur menu, on peut aussi tenir compte de cela. Parce que les carnivores mangent des herbivores. Les herbivores mangent soit des plantes en C3, des feuilles, soit des plantes en C4, soit ils ont un régime mixte. Un animal qui mange, par exemple, de l'herbe et qui a son régime alimentaire très enrichi en quelque chose. On peut arriver à penser que probablement, si le régime est enrichi, c'est qu'il additionnait à son menu, comme vous aviez l'air de le suggérer, de la viande. On sait faire tout ça. On sait faire tout ça. Pardonnez-moi, mais ce sera pour une autre fête de la science. Ceci est en train de se terminer et a dû être soumis aujourd'hui pour Abel dans une revue internationale à haut facteur d'impact. Ceci n'est pas terminé pour Toumaï, mais sera soumis aussi dans une revue internationale à haut facteur d'impact. Pour les raisons d'éthique dont je vous ai parlé tout à l'heure, il serait, madame, très inconvenant de ma part que je vous donne là ce soir les résultats. Mais nous sommes en train de nous en occuper. Vous savez, le jeune chercheur qui vous parle a tapé sa thèse, et à ce moment-là, ce n'était pas la thèse PhD, il y avait deux thèses, une qui s'appelait celle de troisième cycle, qui est à peu près l'équivalent du PhD, puis il y avait la thèse d'État, et à l'époque où je l'ai soutenue, la qualité de la thèse se mesurait au poids et à la qualité du champagne. Ma thèse a été tapée sur stencil. J'ai passé des nuits à les corriger sur des plaquettes en rhodoïde avec des stylets et du vernis à ongles pour femmes. Vous imaginez, pour le jeune chercheur que je suis, moi je ne suis pas tombé dans l'informatique, mais maintenant je l'utilise. Et maintenant on est au pays de l'image, on peut faire tout ce qu'on veut. Et pour ça aussi, pour moi, c'est un vrai bonheur parce que j'utilise plein de techniques qui n'existaient pas à ce moment-là. On fait, par exemple, pour faire de la paléoneurologie, mais la plus grande partie de
de mon temps de chercheur, le seul moment où j'avais accès à ça, c'était quand il y avait un fossile qui était cassé ou alors il fallait faire des manips qui n'étaient pas... Maintenant, on a accès absolument à tout. Pour Toumaï, c'est pas publié, c'est pas fait. Bon, non, je suis pas là pour ça, puis c'est la fête aujourd'hui. Disons que il faut que je le rende, mais il n'est pas fini d'étudier. Par exemple, voilà un jeune homme dont j'ai reconstruit l'oreille interne. L'oreille interne, des deux côtés. L'oreille interne avec la cochlée, avec les trois canaux semi-circulaires dans les trois directions de l'espace. Oui. Ça apporte aussi un certain nombre d'informations. Mais bon, il faut laisser le temps au temps. Alors, je vais le dire parce qu'il y a là mes collègues de l'université qui vont prendre exemple, j'espère. Ils auront du mal à convaincre les gouvernements. Au Collège de France, on a des charges d'enseignement qui nous donnent beaucoup de temps pour faire de la recherche. Vous voyez, ils rient déjà. Au Collège de France, la charge d'enseignement pour un professeur, c'est 9 heures de cours par an, plus 9 heures de séminaire. Alors que la charge d'enseignement à l'université française est... Pour une université de la taille de celle de Poitiers, c'est en moyenne entre 220 et 250 heures. Je suis dans les temps. 192 officiels. Oui, mais enfin, le côté officiel. Et donc, si vous voulez, on n'a pas le temps de tout faire. Mais il y a plein de choses encore à faire. Il rentre au pays, mais il y a encore plein de choses à faire. Mais par ailleurs, je comprends les Tchadiens, je les comprends d'autant mieux qu'ils sont excités par des collègues français qui leur disent « Mais enfin, pourquoi vous laissez Brunet? Il doit rendre Toumaï, il ne va pas vous le rendre, il va le garder, etc. etc. » Donc je le ramène. Bon. Alors, l'avantage, c'est que je l'ai en image. C'est... Non, je vous ai dit, on est entre 12 et 14 individus. Mais c'est le seul crâne. Ah oui. Vous savez, en paléontologie, c'est rare, les crânes. Non. Quelques fragments d'os. Mais on a assez pour savoir, rien que le crâne montre qu'il est bipède. Son cerveau aussi, d'ailleurs. Entre autres. Entre autres. Monsieur le directeur, moi, je ne suis qu'invité, donc on arrête absolument quand vous voulez. Il y a encore une question là-bas, et donc...
Oui, pour le lac Tchad.
Oui.
Toumaï et ses frères sont-ils des immigrés ou, avec une bonne fortune, aurez-vous la chance de trouver son père, voire son grand-père ?
Alors, je pense que... c'est la vraie question qui se pose et c'est ce que l'on ne sait pas. Ça fait partie des choses que l'on ne sait pas. D'où vient Toumaï ? Si j'en crois mes collègues américains qui travaillent tous à l'Est, c'est clair, il vient de l'Est. Si j'en crois le président Déby du Tchad... Il me dit, mais je comprends pas, pourquoi vous n'avez pas publié que le berceau de l'humanité, c'était à l'ouest ? À ça, je lui ai répondu, regardez, des collègues ont publié que c'était à l'est, ça s'est révélé inexact. Si je dis que c'est à l'ouest, ça se révélera sûrement inexact, parce que tu as vu toute l'immensité qui reste à prospecter. À mon avis, il est trop tôt pour le dire. Il est urgent de ne pas se presser. Alors, forcément que c'est difficile. Mais pour le moment, en ce qui me concerne, au moins, c'est un luxe que je peux m'offrir. Et c'est ce que je qualifie parfois, c'est l'avantage de la jeunesse. Je fais les choses à mon rythme, comme je veux. Je ne cherche pas à prendre un avancement ou à faire une carrière ou à faire un scoop. Je ne cherche pas. Je cherche simplement à répondre à des questions que je me pose avant. Entre-temps, je m'en suis posé une qui ne concernait pas Toumaï, c'est-à-dire l'origine des singes anthropoïdes. J'ai eu l'opportunité de pouvoir aller en Antarctique. Il faut quand même savoir qu'aller en Antarctique, si j'avais demandé des crédits pour au Collège de France ou à l'Université de Poitiers ou au CNRS, hein, ils m'auraient vu venir. Hein. Ils m'auraient dit, bon, bah, tu ne peux pas changer d'idée, non, parce que pour aller en Antarctique, j'ai quand même utilisé, on m'a prêté un gros porteur, un Hercule C-130 américain. On m'a prêté un bateau de guerre chilien. Et l'Antarctique, j'ai négocié tout ça avec, hors billet d'avion de mon équipe, avec 15 000 euros en poche. D'accord ? Mais ça, ça fait partie aussi de mes privilèges, pour le moment. Mais oui, les échanges dominidés seront sûrement des choses extrêmement importantes et qui changeront considérablement ce que l'on pense. Je suis persuadé que ce que je vous ai raconté ce soir, pour un bon nombre d'entre vous ici, vous aurez, je ne sais pas, Patrick Vigneault qui viendra dans je ne sais pas combien de temps, dire, bon ouais, vous avez vu Brunet, bah, il avait la barbe blanche, il vous a raconté des trucs, mais c'est fini, maintenant ça va changer. Mais c'est ça la science. C'est ça qui fait que la science est merveilleuse. On n'est jamais sûr de rien. Notre seule certitude, c'est notre incertitude. C'est comme ça. Monsieur le directeur, je suis sous les ordres et je suis prêt à arrêter. Il est content, hein? C'est la deuxième fois qu'il sort avec moi en public. Non, la troisième. Mais pour la deuxième conférence, c'est la deuxième fois qu'il vient à Mendès France. Il n'a jamais été en dehors de l'université de Poitiers. C'est Mendès France où il a été le plus souvent, deux fois. Et il a été une fois, ah non, j'en ai oublié, il a été une fois au Collège de France quand j'ai fait ma leçon inaugurale. Et il a été une fois à l'Élysée. On a fait une séance de paléontologie et de préhistoire où il y avait des anthropoïdes qui dataient de 50 millions d'années, où il y avait les plus anciens silex taillés. Enfin, c'était très drôle. On avait transformé une des salles de l'Élysée en salle de paléontologie et de préhistoire. Donc, c'est lui qui est ravi et qui vous remercie. Il était content, ça l'a sorti. Mais dites-lui au revoir, vous ne le reverrez plus.